Je sais combien le Tout Paris et nous-mêmes journalistes, nous sommes quelquefois friands de telles informations.
Ils vont faire des autoroutes de l'information.
Ouais. Un tox.
Ils vont bien déjà pas mal des informations.
Qui vient sur la Grande Muraille, conquiert la bravitude.
Comment peut-on reprocher à un président d'avoir une Rolex?
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Vous savez, les rumeurs, c'est les rumeurs.
Aujourd'hui, c'est quoi tout ce qui se passe dans tous ces pays?
Nous voulons que l'ancien régime il aille à l'enfer.
C'est la conséquence de Twitter, de Facebook.
Europe 1.
20h, 21h, des clics et des claques.
Laurent Guimier.
Bonsoir à tous, on est ensemble jusqu'à 21h pour vous révéler tout ce qui s'est dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Toutes les infos qui circulent et qui vont faire débat sont déjà dans des clics et des claques sur Europe 1. Et ce soir, la grande conversation qui animera l'émission, c'est l'histoire de ce prof parisien de lettres qui a piégé ses élèves sur Internet, une dissertation, 60 élèves et une bonne cinquantaine de copies qui se ressemblaient, car les élèves avaient tout pompé, ces pièges qui avaient été tendus par le prof, notamment sur les sites de correction de devoirs qu'on propose aux élèves. Vous en avez peut-être, et même sans doute entendu parler, parce qu'on en parle beaucoup depuis 3 jours, la France entière se marre, ou bien commence à critiquer ce prof. Pourquoi piéger les élèves? Est-ce qu'il ne les a pas humiliés publiquement? Et faut-il en tirer des leçons définitives sur les effets néfastes d'Internet sur les élèves et les étudiants? Débat tous ensemble avec le principal intéressé qui est en studio avec nous. Bonsoir Monsieur Bonneau. Et vos réactions à vous tous qui nous écoutez au 39-21, 34 centimes d'euros la minute, je précise. À 20h30, Nicolas Caro dans sa revue de web nous emmène en Turquie. On est les premiers à vous parler de cette histoire. Gros émoi dans les médias et sur le web là-bas. Un personnage de l'histoire utilisé dans une pub télé pour un shampoing. Et ce personnage n'est autre qu'Adolf Hitler. À 20h45, météo du web avec Emery Doliger. Il fait beau au-dessus de nos têtes, ça vous le savez. Il nous dira le temps qu'il fait ce soir sur le Sénégal avec des réseaux sociaux en ébullition après la défaite de Monsieur Abdoulaye Wade. À 9h moins le quart, c'est lundi, c'est donc la chanson du dimanche, comme son nom ne l'indique pas. Semaine lourde et compliquée la semaine dernière, vous le savez. Et pourtant, Alec et Clément nous ont dégoté une superbe chanson qu'ils nous interpréteront en direct ce soir. Rien que pour vous, ça parle de chat et de souris. Je ne sais pas à quoi ils font allusion, mais on écoutera. Hein. Autour de moi, comme tous les soirs, mes fameux aiguilleurs du web. Celui qui cherche et qui trouve des petites bêtes qui est tout en vert ce soir, c'est Guy Birenbaum. Et ça n'est pas Shrek. Bonsoir Guy.
Je ne suis ni Hulk ni Shrek et je salue tous nos auditeurs que nous aimons.
Bonsoir David Abiker, également en vert.
Salut à toi Laurent Guimier, je ne suis pas Shrek, je ne pète pas. Salut les copains, salut les copines.
Bonsoir Lise Pressac, voix des auditeurs et des internautes.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Pour participer, c'est le 39-21, 34 centimes la minute, où vous nous laissez un message sur Facebook ou sur Twitter.
Et pour débattre jusqu'à 21h sur Europe 1, notre tête à clic ce soir est l'écrivain et polémiste Denis Tillinac. Bonsoir Denis.
Bonsoir.
Considération inactuelle, c'est votre 30e bouquin, c'est ça? C'est un peu plus, mais on en parlera tout à l'heure. Parce que moi, je me souviens surtout du premier, mais je suis journaliste, on en parlera tout à l'heure. Considérations inactuelles chez Plon, scandaleusement anti-moderne, c'est comme ça qu'un bandeau rouge définit le livre sur la couverture. Alors, c'est bien que vous veniez vous frotter au monde du web avec nous. D'ailleurs, juste avant l'émission, vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? De quoi vous allez parler, etc. Mais ça va, vous y voyez un peu plus clair. Finalement, on parle de choses normales, de la vraie vie.
Je commence à comprendre de quoi il s'agit.
Bon, un peu après 20h30, on parlera de vous sur le web parce que il y a beaucoup de gens qui parlent de vous, puis vous exprimez.
Oui,
eh ben,
oui,
eh ben voilà,
Denis.
Surprise.
Bien
alors,
sûr, Denis.
Alors, rassurez-vous, c'est dans une vingtaine de minutes et vous allez apprendre plein de trucs sur vous, j'imagine. Allez, il est 20h08 sur Europe 1, c'est déjà sur le web et c'est même déjà sur Europe.
Des clics et des claques sur Europe 1.
Laurent Guimier.
Alors, direction le lycée Chaptal à Paris. Lise Pressac, raconte-nous l'histoire qui a été initiée par Monsieur Loïs Bonneau, qui est en studio avec nous ce soir.
Et voilà, il est en studio et en corrigeant ses copies d'élèves de première, il a constaté ceci, je cite, « des expressions syntaxiquement obscures répétées à l'identique dans plusieurs copies ». Ce sont des élèves donc de première. Ils recherchent alors dans Google et trouvent des corrigés sur un sujet de dissertation voisin vendu à 1,95€. Il se rend compte également la même année que ses élèves utilisent pas mal Internet comme source d'infos, même durant les devoirs sur table, sûrement grâce à leur smartphone. Et il décide alors de leur faire un petit piège sur Internet. Il sélectionne tout d'abord un poème un peu obscur du XVIIe siècle, très peu connu, Charles Devion d'Alibray, que
je ne connaissais pas avant.
Voilà, et donc Loïse Monod modifie ensuite la page Wikipédia consacrée au poète en y glissant une petite phrase à propos de l'amour célèbre et malheureux que le poète aurait eu pour une certaine Mademoiselle de Bonnet. L'enseignant donne à ses élèves 2 semaines pour rédiger ce commentaire. Et sur 65 élèves, 51 sont tombés dans le panneau et ont recopié à des degrés divers et variés ce qu'ils ont trouvé sur ce site Wikipédia.
Alors ce professeur pervers et méchant est en studio avec nous ce soir.
Rétrograde. Bonsoir. Je suis venu avec mes peaux de bête, mes bougies, etc.
Bonsoir Loïse Monod.
Bonsoir.
Rappelez-nous ce qui vous a motivé dans cette expérience et dans la revendication que vous en avez faite sur Internet il y a quelques jours.
Bon, il faut d'abord être très clair, j'ai rien découvert. Hein. Tous les professeurs savent ça depuis des années, ça n'a rien de nouveau. L'expérience était plus destinée aux élèves en réalité. Car moi je le sais qu'ils trichent, je m'en doutais et... J'ai juste voulu leur montrer qu'on n'était pas dupes, en fait. Donc c'était ça le but de l'expérience. L'expérience, d'ailleurs, n'était pas du tout destinée à être médiatisée. Il s'est juste trouvé qu'un an et demi après, je me suis dit, tiens, je vais raconter ça sur mon blog. Et ça a explosé, quoi. J'en suis à 450 000 visites sur mon article. J'ai rien demandé, moi. Je voulais juste raconter une petite histoire marrante. Et visiblement, ça a l'air d'interroger beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens.
David.
Moi, j'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé ça formidable en dépit des cris victimaires que j'avais pu lire.
On va
entendre.
En parler tout à l'heure. Des critiques formidables à l'encontre de Monsieur Bonod.
La première partie de mon propos, elle est très élogieuse parce que tout le monde a dit c'est un piège, les pauvres élèves, etc. C'est une humiliation des élèves. Moi, je pense qu'au contraire, ça va peut-être même resserrer le lien, si tant est qu'il était desserré entre le professeur et l'élève. Et je voudrais rapporter une anecdote qui, moi, m'est arrivée. Il n'y avait pas Internet à l'époque. J'ai honte de dire ça, mais.
Comment c'est possible?
C'était en 91.
Il y a eu un abicaire avant le web.
C'était en 91 et il y avait un prof qui chaque année faisait la même chose et je l'ai eu en économie. Et ce prof, pour nous tester en économie, à la première séance, il demandait à ses élèves, il leur posait 10 questions d'économie. Alors on répondait aux questions, on savait rien, etc. Et puis la semaine suivante, il nous disait, sortez une feuille, il reposait les 10 mêmes questions. Et il voulait s'assurer ou pas, ou vérifier qu'on n'avait pas eu la curiosité de se renseigner sur ce qu'on n'avait pas su.
C'est un peu différent, mais
c'est un piège pédagogique. C'est pas parce que c'est des jeunes et que c'est un prof adulte qui fait ça, que ça devient un piège méchant et anti-jeune. Et c'est peut-être aussi une malice saine du prof avec ses élèves.
Je suis facétieux. Hein.
Denis Tillinac, un piège pédagogique, c'est...
Non, ça ne me dérange pas. Ce qui me pose un problème, c'est cette histoire de tricherie. Le devoir que vous donnez à faire à la maison. D'accord. Bon, de toute éternité, les élèves qui ont des parents capables de les aider et les aident et font le devoir. Si mon père m'avait pas fait pas mal de devoirs, j'aurais jamais eu mon bac. Donc, si je comprenais, la tricherie n'intervient que quand les gars font leur devoir.
Non, c'était bien la maison parce qu'en fait, la chose.
Donc, c'est pas une tricherie, c'est un.
C'est un commentaire composé. Le commentaire composé au bac, je suis désolé, mais vous êtes seul avec votre copie, quoi. Donc, moi, mon but, c'est de les entraîner, mes élèves, à être seuls. Et en fait, Internet. Ça les entraîne, ça les empêche d'être seuls.
C'est ça le problème, vous
comprenez bien. Donc moi, mon but, c'est que mes élèves, ils soient seuls face à leur copie. C'est pas du tout que j'ai envie de taper sur Internet. Hein. Internet, je m'en sers tous les jours, j'adore Internet.
Ouais. Donc c'est-à-dire que cette aide facile à un clic, elle vous semble aujourd'hui compliquée à assumer.
Avant, on a toujours triché, on trichera toujours. Le but, c'est pas du tout d'empêcher la triche. D'ailleurs, au fond, la triche, c'est pas tellement ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire que les élèves, ils ont fait confiance à quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont fait confiance à ce que cette personne disait. En l'occurrence, c'était moi et je disais des choses fausses. Et ils ont recopié sans essayer de comprendre le texte. Ils se sont dit, bon, je suis trop bête, je ne peux pas comprendre moi-même. Et ça, je trouve ça inquiétant.
Alors, d'un mot, comment ont-ils réagi quand vous avez dévoilé le poteau rose? Et puis, je précise qu'un de vos élèves est en ligne avec nous. Alors, ne trichez pas vous-même. Hein.
Non, bien sûr. Ils ont été interloqués. J'ai dévoilé. C'était très très drôle. C'est un de mes meilleurs cours. J'ai un peu improvisé parce qu'on fait jamais ce genre de choses. J'ai dévoilé progressivement la supercherie et puis ça les a fait mourir de rire. Quoi. Il y a une des classes qui m'a applaudi vivement. Ils ont trouvé ça très drôle. Et ensuite j'ai enchaîné avec la deuxième classe, si vous voulez. Ils ont dit, j'aurais dit, mais répétez pas, dites pas, faut pas dévoiler. Ils ont tellement adoré le jeu qu'ils ont piégé leurs copains aussi.
Guy,
mais moi j'entends bien ce que vous dites, Loïs. Mais au moment où vous leur révélez le piège, ils savent pas que longtemps après vous allez la raconter l'histoire.
C'est vrai.
Par ailleurs, contrairement à ce que vous avez dit en commençant votre propos, vous ne pensiez pas le médiatiser, mais pour le coup, vous avez quand même décidé de le médiatiser.
Alors, je précise qu'il n'y a pas de nom.
Non, tout à fait.
Vous révélez pas l'identité des élèves.
Non, mais c'est pas.
Il
n'y
a pas de nom, mais enfin, il y a quand même une ou des classes. Oui. C'est pas pareil de mettre les gosses en face de leur connerie entre profs et une classe voilà. et de le livrer en pâture à l'opinion publique.
C'est ma première remarque, si vous voulez, sur. Il m'est arrivé d'enseigner, moi aussi, sur le contrat de confiance qu'on a.
Attendez, il ne faut pas renverser les choses. Qui a été victime du contrat de confiance dans cette histoire ? Il faut quand même mettre les choses dans l'ordre.
Individuellement.
Moi, j'ai rien fait de méchant. Il faut remettre un peu les choses en place. Il y en a une bonne partie qui s'est gentiment assis sur le contrat de confiance.
Pardon.
On est en ligne avec Simon, l'un des élèves de Monsieur Bonneau. Bonsoir Simon.
Bonsoir.
Alors, vous êtes fait piéger, vous ?
Non, personnellement, non, je ne me suis pas fait piéger.
Ah, donc vous faites partie des 10 qui ne se sont pas fait avoir, c'est ça ?
Exactement.
Bravo.
Bon, alors, qu'est-ce que vous êtes dit entre vous j'allais pas dire à la récré après, parce que vous ne parlez plus comme ça, mais qu'est-ce que vous avez dit du joli tour que M. Bonneau a joué à ses classes ?
Bah, on a tous vraiment beaucoup, beaucoup ri. Enfin, comme M. Bonneau l'a dit, on l'a gardé en secret pour l'autre classe. Et bien évidemment, tout le monde l'a raconté après à tout le monde. Enfin, c'était vraiment un très très bon moment par rapport à tout ce que les gens pourraient croire qu'on a été humilié ou quoi que ce soit. Pas du tout. C'était vraiment quelque chose de très drôle et qui nous a marqué. Et encore aujourd'hui, ça nous arrive d'en parler, quoi.
Rappelez-nous, vous étiez en quelle classe à l'époque ?
Première.
En première S. D'un mot, vous en avez tiré des leçons, vous ? Personnellement, même si vous faites partie de ceux qui n'ont pas triché et qui ne trichaient pas.
Oui, justement, parce que même si depuis toujours on nous raconte avec Internet qu'il faut se méfier des informations qu'on trouve, etc., qu'il faut toujours vérifier les sources, c'est par des actes comme ça qu'on a vraiment, je pense, tous ceux de la classe compris qu'il fallait vraiment se méfier, parce que les paroles ne nous ont jamais vraiment appris ce qu'il fallait faire par rapport à Internet.
Merci beaucoup Simon. D'un mot, Lise, avant de marquer une pause, le site Wikipédia dont on parlait il y a quelques jours avec le patron France de Wikipédia est au cœur de ce système, parce que vous avez...
Non. Wikipédia, c'est secondaire dans ma... Wikipédia, c'est très bien pour certaines choses. Hein.
C'est secondaire, mais en tout cas, votre initiative a quand même suscité une réaction de leur part. Ils m'ont contacté cet après-midi. Donc Rémi Mathis, qu'on recevait nous-mêmes le 13 mars dernier, est en train de rédiger un billet officiel très neutre, pour ne pas attiser le feu, précise-t-il, pour expliquer de manière claire ce qu'est l'usage raisonné de Wikipédia et rappeler les formations qu'il propose et qu'il prodigue déjà en grand nombre.
Et c'est normal, hein, Monsieur Bonneau, parce que vu l'ampleur que prend cette information, tout le monde est obligé de se positionner. Je ne vais pas dire l'éducation nationale encore, mais en tout cas, tiens d'ailleurs, l'éducation nationale, vous avez eu des retours depuis la publication de ce billet ?
Encore, ça viendra. Il y a des gens qui me menacent d'inspection quand même sur
alors,
le web.
Monsieur Bonneau, à 20h17, le vent tourne pour vous, car les critiques vont s'abattre après la pub sur votre initiative. A tout de suite.
Je tremble.
Europe 1, 20h, 21h.
Des clics et des claques.
Laurent Guimier.
Et sur Europe 1, on ne triche jamais.
Jamais.
Mon gars, c'est un tricheur. Partout.
Ah, c'est un des tout premiers Joe Dassin, enfin, Guy Birenbaum. Tu as exhumé de ta discothèque.
C'est pas moi.
Non,
je ne suis pas coupable.
Ah bon, tu n'es pas coupable ?
Exceptionnellement, je ne suis pas coupable, mais j'avais reconnu notre ami Joe.
Alors, Louise Bonneau, dans l'histoire que vous avez décrite tout à l'heure, il y a des participants qui se font particulièrement épingler, des protagonistes. Ce sont ces sites qui proposent aux élèves et à leurs parents des devoirs tout corrigés.
Ce sont des charognards. Ce sont des gens qui vivent...
Qu'est-ce que vous avez fait, vous, avec ces sites, quand vous avez monté votre opération ?
Moi, j'ai envoyé mon commentaire. J'ai fait donc le commentaire le plus nul qu'on puisse imaginer. Ça m'a fait beaucoup rire à faire. C'est un exercice marrant. On fait toujours le commentaire le plus beau, le plus réussi possible. Là, j'ai fait le plus nul. Et je l'ai envoyé à ces deux sites qui n'ont pas du tout vérifié d'ailleurs s'il y avait des droits d'auteur ou s'il y avait déjà publié ailleurs.
Parti.
Et j'ai reçu une validation de comité de lecture. Il y a des gens qui s'appellent le comité de lecture chez auboulot.com ou doc. Qui valide ça, mais alors sans problème, hein, ça leur pose aucun problème. D'ailleurs, c'est resté en ligne pendant un an et demi. Donc ça vient juste de disparaître, dites donc.
Et certains des élèves, pensez-vous, se sont adressés, se sont retournés vers
ces sites ? Non seulement ils sont mercantiles, et en plus ils sont stupides parce qu'ils publient quasiment toutes leurs informations. Il y a un résumé, il y a le plan, il y a l'introduction, enfin il y a déjà tout. Quoi.
Sauf que depuis un an et demi, peut-être qu'il y a des victimes collatérales que sont de vrais élèves qui se sont fait vraiment avoir par votre faux commentaire.
Ah là là, ça serait...
Et là, vous devrez vous présenter vos excuses.
Udoc et Auboulot m'ont jamais donné d'argent. Hein. Ils m'ont averti de rien. Donc je suis au courant de rien. Je n'ai pas gagné d'argent, a priori.
Alors, il ne montrerait plus que vous avez gagné du pognon. En plus.
Bah, oui.
Alors, Guy, on a compris, est plutôt dans les sceptiques. David est plutôt dans les reconnaissants.
Moi, ce n'est pas un problème de scepticisme. C'est juste que je pense que pédagogiquement, on peut faire plein de trucs positifs pour expliquer Internet aux élèves et qu'on n'est pas obligé de leur tendre une embuscade. Je pense que beaucoup d'enseignants y arrivent très bien.
Lise, tu as remarqué sur les réseaux que pas mal de gens disent comme Guy, de collègues, hein. de confrères, de professeurs,
ça a entraîné pas mal de billets de blog de profs pour donner leur avis. Je vais vous en lire deux qui sont assez explicites. C'est d'abord Mila Sainte-Anne. Je reste convaincue que notre rôle est de leur apprendre à penser par eux-mêmes et à utiliser les outils de leur génération. Je ne crois guère à l'humiliation
faut qu'ils recopient et corriger quoi.
Et au piégeage comme méthode pédagogique. Il aurait été sûrement plus formateur de faire écrire un article pour Wikipédia par les élèves. Autre réaction
de Jean-Loup. C'est quoi le rapport avec le bac?
Non, c'est au lieu de les piéger de faire l'exercice Wikipédia.
Quel est le rapport avec le bac? Je comprends pas.
On n'a pas un béni oui-oui ce soir,
non,
on a une flèche.
Un
donc il faut que les tweetos,
ces gens
envoient du bois.
Ces gens veulent parler au nom des profs, mais il y a plein de profs qui sont d'accord avec moi.
Loïs,
allez sur Néoprof.
C'est la majorité silencieuse, on dirait Nicolas Sarkozy.
Allez sur le site de Néoprof.
Ça y est, tout de suite, le clivage.
Mais oui, mais c'est drôle.
Le méchant de droite et le gentil de gauche.
Attendez, moi, qu'est-ce qui vous dit que je suis de droite?
Mais non, c'est une blague. Loïs, c'est une blague.
Ici, on a l'habitude de faire des blagues.
Non, c'est une blague, rassurez-vous.
Vous acceptiez d'être piégé comme vous avez bien
dit. Je l'accepte volontiers.
Vous êtes un sarkozyste d'apparence.
Allez, on est en ligne avec un prof, Éric Delcroix. Bonsoir Éric.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Alors vous faites partie donc des sceptiques, des profs qui avaient deux, trois questions à poser à Loïs, ou en tout cas vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes prof d'université, Éric.
Tout à fait, je suis maître de compte associé à l'université de Lille 3.
Alors,
ça intervient.
Votre avis sur cette initiative de Loïs Bonneau?
Oh, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'amalgames dans différents niveaux. C'est aussi bien au niveau de Wikipédia, l'utilisation qui est faite de Wikipédia, du respect des droits d'auteur ou du travail des autres. Il a dit tout à l'heure que c'était pas trop grave, Wikipédia. Enfin, moi, ça me pose problème. Les sites de corrigés, moi, je veux bien qu'on critique les sites de corrigés faits pour les élèves, mais à ce moment-là, on peut parler également des sites où les profs mettent des cours entiers en ligne, y compris avec les corrigés, où les élèves peuvent venir piocher dedans. On peut parler de la maturité, bon, ça a été évoqué, la manière dont il utilise les méthodes pédagogiques et d'autres méthodes pour apprendre aux gens qu'il y a des dangers sur Internet. Moi-même, je sais, le fait de piéger des étudiants ou des élèves, ça peut se concevoir, effectivement. Mais de cette manière-là et d'en reparler de cette manière-là par la suite, c'est un petit peu gênant. La méthode pédagogique dont on en a parlé, ce qui est dérangeant également, c'est la mise en avant perpétuelle. Tout à l'heure, j'entendais encore le nombre de personnes qui ont lu son billet. Je veux bien. Ils donnent l'impression, au fur et à mesure, que tout le monde est d'accord avec lui. Alors moi, j'ai plein. Je vais répondre. Allez voir sur Twitter. Sur Twitter, il y a plein de messages.
Il y a combien de j'aime Facebook sur ma page?
Mais on va pas s'envoyer des résultats d'audience à la figure. Je pense que c'est pas l'objet du débat, les amis.
Il y a un peu de jalousie.
Éric, restez avec nous. Loïs, alors ça, c'est votre avis, la jalousie, mais la question quand même de la méthode pédagogique retenue qu'on a juste évoquée tout à l'heure, qui était, alors certains disent humiliation,
mais
d'autres...
Monsieur Bienbaum a mille fois raison, il y a plein d'autres façons de sensibiliser les élèves, je pense, à Internet. C'en est une. Expérience que j'ai faite.
Avez-vous eu des remarques des parents d'élèves en question, qui sont les premiers concernés
hein,
parce que nous, on parle comme ça.
Les parents d'élèves ont adoré. Ouais. Les parents d'élèves ont adoré.
Non, mais ce sont les premiers concernés.
Bon, je suis un peu gêné de parler à leur place, quoi, parce que c'est les parents d'élèves, mais...
Moi, si vous voulez, Loïs, l'objet de ma critique, c'est moi, je suis pas d'un côté ou de l'autre. J'ai horreur de, je suis pas manichéen. Ce qui me gêne simplement, c'est que dans la médiatisation importante, et d'ailleurs la preuve, vous êtes ici avec nous. C'est un sujet dont on parle depuis vendredi, et donc on a vu passer le train de la médiatisation, et je trouve que la chose a été présentée dans les médias de manière assez peu contradictoire. C'est-à-dire que
mais vous avez raison, faut le faire. Vous avez raison.
Et nous, on fait ce débat, mais on a envie d'entendre aussi des points de vue qui ne sont pas forcément d'accord avec la méthode que vous avez utilisée.
À la fin de mon billet, j'ai dit je crois. Je n'ai pas dit je sais. Lisez bien ce que j'ai dit. J'ai dit je crois.
J'ai bien lu.
Je crois.
D'ailleurs, la présentation médiatique telle que je l'ai vue moi dans certains journaux de grandes chaînes était particulièrement anxiogène. C'est-à-dire qu'il y avait mille façons de faire ce sujet. On aurait pu faire un prof, fait une expérience pédagogique avec ses élèves. il les a, j'aime pas le mot piégé parce que c'est un mot piégé justement, il a fait une sorte de thérapie collective avec ses élèves. Je vous fiche mon billet que dans 10 ans ils auront oublié tous leurs profs et qu'ils se souviendront de Bono avec lequel ils avaient fait ce coup là. Dans les médias ça a été présenté de la façon suivante, c'est-à-dire d'une façon anxiogène, sécuritaire, en expliquant que ça interpellait beaucoup le rectorat sur les tricheries possibles au bac. Attends, et qu'on revenait sur le fait
divers de l'année dernière.
Je m'emballe parce qu'il y a Merci. Aussi une désinformation sur cette affaire là et je pense que le gentil, c'est lui. Ça Merci. N'est pas le méchant. Il n'est pas le méchant dans cette affaire. Et vous savez très bien que médiatiquement, on s'emballe et on peut penser à l'envers dans la société médiatique.
Des réactions oui, puisque Éric Delcroix parlait de nombreuses réactions sur Twitter.
Oui, il y en a beaucoup, c'est assez partagé. Et notamment une question de My Planétarium. Est-ce qu'il n'y a pas de cours sur l'usage des internets à l'école? Est-ce qu'il ne faut pas enseigner avec son temps?
Si, si, ça existe, bien sûr.
Alors justement, on va terminer ça là-dessus avec cette question, parce que finalement, c'est un appel alors qui n'est pas non plus flagrant. Hein. Vous êtes très très critique à l'égard d'Internet dans,
non,
dans votre
Non, pas du
billet.
Tout. Je suis très... je suis critique à l'égard d'Internet dans le cadre de mon enseignement des lettres. C'est tout.
Oui, enfin...
C'est tout. Pour le reste, moi je suis un grand enthousiaste d'Internet. Hein.
Vous savez très bien, surtout dans la période actuelle où Internet est sous le feu de toutes les critiques, que le petit codicille dans les lettres, il passe dans les grands médias, dans les masses médias, de façon absolument comme.
Oui, mais
comme
ça, ce n'est pas la faute de Louise Bonneau.
Mais si, c'est
dit.
Non, c'est un petit peu de sa faute.
Je me permets d'intervenir. Regardez, je vais vous faire
il faut lire le billet de Loïs.
Mais tu sais bien que c'est pas comme ça que ça marche, Laurent.
D'accord, mais l'internaute a le droit de lire le billet de Loïs Bonneau.
Je ne parle pas.
Je pensais que je tiendrais un blog si je pensais que.
Je sors un tout petit peu de mon rôle de modérateur, mais je me permets de le dire.
Mais tu as tout à fait de raison de sortir de ton rôle, mais ma remarque ne concernait pas.
Je comprends bien.
Ma remarque ne concerne pas la façon dont il l'écrit, mais elle concerne exactement la même chose que ce qu'a dit David, c'est-à-dire la façon dont, médiatiquement parlant, c'est présenté comme l'Internet. C'est mal, et voilà qui a montré que l'Internet, c'est mal.
Le dernier mot, Loïs Bonneau, c'est mal. Et puis les élèves, moi, mon boulot, c'est de les amener à penser par eux, et parfois, ça fait du bien aussi, parfois, il faut déconnecter pour certains exercices, et c'est l'exercice le plus beau, le commentaire.
Eh bien voilà, on reste sur ce commentaire justement. Merci beaucoup, Loïs Bonneau, professeur de lettres au lycée Chaptal, pour cette expérience dont on va continuer à entendre parler forcément sur le web et les réseaux sociaux. Et puis je vous renvoie vers le billet de Loïs Bonneau que vous pourrez lire à tête reposée. Merci à tous, merci à Éric Delcroix, merci à Simon, l'élève non piégé qui a gardé un formidable souvenir de Monsieur Bonneau. Allez, 20h28 sur Europe, c'est l'heure de la revue de web.
Des clics et des claques sur Europe 1.
Laurent Guimier.
À 20h30 sur Europe dans Des clics et des claques, je vous rappelle que dans quelques minutes, nous allons passer un sacré beau, bon ou chaleureux quart d'heure avec Denis Tillinac, notre invité, notre tête à clic ce soir très numérique. Denis, vous vous préparez, on fourbit nos armes. Mais tout de suite, c'est la revue de web. Bonsoir Nicolas Caro.
Bonsoir Laurent, je vous préviens, j'ai triché sur Internet.
C'est vrai ?
Moi, tous les jours.
Alors, en Turquie, tu nous apprends, je le disais tout à l'heure, qu'une marque de shampoing utilise Hitler dans un spot ?
Oui, c'est la marque Biomen, c'est le Huffington Post qui nous en parle. Une publicité à la fois sexiste et un tout petit peu nazi, donc. Un spot de 12 secondes, on voit Hitler lors d'un meeting.
Un tout petit peu nazi, c'est le concept de ce soir.
C'est comment un peu nazi? Bah, tu vas voir, il est doublé en turc et il dit « Vous ne portez pas une robe de femme, vous ne devriez pas non plus utiliser un shampoing de femme. Alors voilà un shampoing 100% masculin, on écoute.
« Quand il y a une shampoing de Dakulamba !» Artık %100 erkek şampuanı Biomen var. Erkeksen Biomen kullanırsın.
C'est donc bien une publicité diffusée en Turquie.
C'est une image d'archives d'Hitler. Il est doublé en turc pour vanter donc les mérites de la marque Biomen. Évidemment, scandale en Turquie d'abord et partout dans le monde via les réseaux sociaux. La marque ne comprend pas pourquoi on lui fait ce procès. Elle refuse d'ailleurs de cesser la diffusion de sa pub. Au passage, il existe une marque de cosmétiques française du même nom, Biomen, que j'ai appelée.
Alors oui, ce ne sont pas les mêmes.
Je vous le dis tout de suite, ça n'a rien à voir, rien du tout, à part le nom. Et donc c'est
Ça veut dire que tu l'auras appris l'histoire.
Ouais, j'ai appelé le type et je lui ai dit est-ce que c'est vous qui faites une pub avec Hitler? Il a dit quoi?
Il a dit c'est Jean-Yves Lafay, c'est-à-dire non, je suis vraiment journaliste à Europe 1.
Mais cette marque Biomen qui est en France, ils savaient qu'ils avaient un homonyme
ou ils en avaient plus ou moins entendu parler d'après ce qu'il m'a dit.
Ah bah là oui, ils vont en entendre complètement parler.
Le projet nazi avait pour objectif de faire un homme bio d'une certaine façon, c'était ça la race pure, c'était un truc affreux. Hein.
Mais là je pense que l'argumentaire que tu développes va assez peu séduire les
C'est absurde, c'est évidemment absurde et odieux. Mais
oui, Denis Tillinac.
Je dis bio, le panthéisme, le purisme écolo, c'était plutôt le régime de Vichy que proprement le nazisme. Enfin, quand même, on voulait faire un homme pur, propre. On était contre le tabac, on était contre l'alcool. Enfin, ça ressemble beaucoup à la campagne de Madame Jolie.
J'étais sûr que vous alliez dire ça.
Ah ben ça y est, c'est parti. Mais il est en
forme. J'avoue que c'est une facilité.
Alors, je vais vous apprendre un truc. Vous venez de faire un truc qui s'appelle un point Godwin sur Internet. Vous venez de comparer Eva Jolie à Adolf Hitler. Je vous félicite.
Pas du tout.
Non, c'est pas ce qu'il a dit.
Pas du tout.
Allez, Lina et YouTube enterrent la hache de guerre avant que Birenbaum et Tilinac la déterrent dans quelques minutes.
Ils ont signé un accord dans lequel YouTube s'engage à bloquer toutes les vidéos ici du catalogue de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. L'INA avait déjà signé cet accord avec Dailymotion, mais était en procès avec YouTube, qui refusait de le signer et qui diffusait les vidéos sans autorisation. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra plus avoir accès à des vidéos INA sur YouTube. L'INA apporte 57 000 vidéos gratuites.
Ouais, ça fait déjà un paquet, c'est pas mal.
La seule différence, c'est qu'elle profitera des recettes publicitaires, elle aussi, et lui aussi, l'Institut. Ouais. Et les autres vidéos INA seront bloquées.
Bon, bah, comme ça, tout est réglé. Et on termine avec Internet qui devient notre besoin numéro un à tous, ou presque. Hein, on demandera son avis à Denis Tilinac dans quelques secondes.
On le sait grâce à une étude du Boston Consulting Group. Merci, le Boston Consulting Group, relayé par le site 7sur7.be. Étude d'envergure, puisque 20 000 participants ont été interrogés. La question était, à quoi seriez-vous prêt à renoncer plutôt que d'abandonner votre connexion Internet pendant un an ?
Alors,
réponse, 20% des personnes interrogées sont prêtes à s'abstenir de sexe plutôt que d'être coupées pendant un an. 83% renoncent au fast-food.
Oui, bon, bah, c'est ça.
Ouais, franchement,
73% plus d'alcool, plus une goutte.
Ah, ça c'est plus compliqué.
43% arrêtent le sport. Ça, on peut faire. Oui.
Je suis prêt à arrêter le sport.
Ça, franchement, ils n'en faisaient pas, à mon avis.
Et certains sont même prêts à se passer de douche pendant un an, je le rappelle.
J'en connais.
Tout sauf être déconnecté.
J'en connais, mais.
Internet, ça pue, c'est ça.
Voilà, Internet, c'est mal et ça pue.
Denis Tilinac, ça va, vous pouvez vous passer. Vous pourriez vous passer un an d'Internet comme ça?
Oui, non, je n'ai pas de portable, je ne sais pas me servir d'un ordinateur.
Mais qu'est-ce que vous faites là?
Ceci dit, quand il y a des questions, par exemple, de Wikipédia, je me fais fournir des informations qui peuvent m'être utiles et qui me font gagner beaucoup de temps.
Vous n'avez pas de téléphone portable?
Non.
C'est très rare, hein?
Non, il y en a... Il y en a un certain nombre,
c'est un choix militant.
On est près de, pas le moins du monde, je suis l'homme le moins militant, je déteste l'engeance militant, ça vient de miles militis en latin, soldat, c'est pas mon genre.
Allez,
non, simplement parce que j'en ai pas le besoin, j'aurais l'impression d'être pourchassé, et ça me convient pas.
Allez, au revoir. Au revoir Nicolas Caro, merci.
Nicolas.
Et vous l'avez compris, vous qui nous écoutez.
Il a sûrement son utilité quand même.
Le bavard Denis Tilinac est déjà avec nous pour ce grand déballage, le quart d'heure que nous allons passer ensemble. Denis, merci encore de venir passer par chez nous. On va parler de ce bouquin « Considérations inactuelles » chez Plon. Oui. Mais d'abord, c'est la tradition ici, à 20h30 sur Europe 1, on retrace ce que l'on appelle votre empreinte numérique, c'est-à-dire quand on tape votre nom dans un moteur de recherche. Quels sont les articles qui arrivent? Qu'est-ce qu'on dit en premier de Denis Tilinac quand on tape son nom sur Internet?
Alors, pas la moindre idée.
On a fait le boulot. Oui. Et en fait, la première occurrence qui ressort, c'est une interview que vous aviez accordée l'année dernière au Monde des Religions, qui était titrée ainsi. « Hors de l'amour de Dieu, je me fous de tout ». C'est donc d'abord le Tilinac catholique qui est présent sur Internet. Ça vous va?
Je ne renie sûrement pas mon catholicisme.
Ouais, donc ça vous va?
Pour un croyant, c'est la définition la moins restrictive et la moins parcellaire.
Cela dit,
c'est quand même parcellaire, puisque vous dites que vous avez eu un regain de foi et d'intérêt pour la religion assez tardivement. Et qu'entre votre enfance... Bah si, j'ai lu un interview de vous, vous dites ça.
Non, on est toujours anticlérical entre 15 et 20 ans, parce qu'on est con, c'est l'âge bête. Bon, j'étais un peu plus con que la moyenne, donc un peu plus anticlérical.
Mais un peu plus honnête maintenant, donc c'est bien.
Non, j'étais anticlérical, je pense pas avoir complètement perdu la foi, mais la foi, c'est pas une certitude. Je laisse ça aux athées, les certitudes. La foi, c'est une chandelle, c'est la flamme d'une chandelle qui vacille, des fois elle s'éteint, des fois elle bouge, des fois elle se rallume un peu dans la nuit, et ça, je crois pas l'avoir complètement perdu.
Alors, l'empreinte numérique de Denis Tilinac, c'est aussi Guy.
Alors, quand on continue, Denis, je tutoie Denis parce qu'on se connaît depuis longtemps.
D'accord.
Quand on continue à observer ce que tu as produit toi-même, il y a un papier que tu as donné au blog de l'UNI, puisque tu étais présent, je ne me trompe pas, à la fameuse réunion devant l'UNI au cours de laquelle Claude Guéant a parlé Des civilisations, je ne me trompe pas ?
Oui, moi, enfin, c'était leurs assises. J'ai prononcé une allocution le
tout
matin et je suis rentré en Corrèze et Guéant a prononcé la sienne l'après-midi.
Voilà. Donc, et là, il y a eu l'orage.
Alors là, il y a eu un gros orage. Et alors, c'est très intéressant parce que tu leur as donné donc quelques jours après l'orage. C'était après l'orage, un texte qui était peut-être issu de ce que tu avais expliqué, dans lequel tu disais la chose suivante. Les jeunes de l'Uni sont confrontés au même manichéisme à cela près que l'utopie identique sur le fond est véhiculée par des écolos. Tu vois, on retrouve ce que tu disais, des altermondialistes et autres alternatives qui prônent cosmopolitisme, androgyna et indifférencié. Alors, il se trouve que j'ai lu ton livre et que page 35, cette question de l'androgyna et du cosmopolitisme...
Attends, il va falloir expliquer de
on
tout
va tout
ça, là,
expliquer. Denis va tout nous expliquer.
Non, mais tu le feras très bien.
Moi, je pose les questions. Soyez femme ou homme, l'androgyna est une visée totalitaire, un parti pris d'indifférenciation, comme son siamois, le cosmopolitisme. Explique-nous le rapport entre être... l'indifférenciation des sexes et le cosmopolitisme, parce que moi, j'ai pas tout compris.
Si, t'as tout compris, mais.
Non, non. Fait...
Attendez, Denis, peut-être que tous les auditeurs ne comprennent pas ce que l'androgyna.
L'androgyna, c'est une personne qui rassemblerait deux sexes en une. Ouais. Hein. Le cosmopolitisme, c'est la vision sur laquelle l'altérité des genres, alors sexuels, des cultures, des traditions, des modes d'existence, devrait être aboli pour donner place à une espèce d'humanité où on ne percevrait que des individus uniformes. Moi, je crois que l'altérité, non seulement fonde le désir, quand je vais en Italie, je veux que ça ressemble pas à la France, et c'est pour ça que je l'aime, et l'altérité, elle fonde même la conscience. Je crois qu'il y a nous et les autres, il y a le moi... Il y a le même et l'autre, et n'importe quel psychologue de l'enfance vous dira que c'est comme ça qu'un enfant se structure.
C'est plus clair quand t'expliques.
Or, l'idéologie, une certaine idéologie d'une certaine gauche française, prône plus de façon plus ou moins sournoise une société comme ça où l'indifférencié serait la règle morale avec une police du langage, on la voit déjà sévir à travers par exemple sur la contestation de la discrimination, alors qu'un être civilisé discrimine ses affects, ses goûts, sa culture et le tout est pareil, mais c'est l'apanage du barbare. Voilà ce que j'ai voulu dire, ça me paraît pas bien méchant.
Alors
Denis, il y a Denis le Cato, Denis le copain de l'Uni et Denis le Chiraquien, évidemment.
Bah oui, parce que sur Internet, Tilinac rime évidemment avec Chirac. Et l'année dernière, on vous l'a pas fait tout de suite d'ailleurs. Et l'année dernière, à la même époque, il était question évidemment du procès de Jacques Chirac. Vous étiez parmi les grandes voix qui disaient qu'il avait encore bon pied, bon œil, et surtout que c'était absurde de juger un président qui avait rendu service à la République, etc. Ce qui vous a tenu à tenir sur les juges des déclarations assez incroyables. On va réécouter un extrait de votre passage chez nos confrères de France Inter.
Les Français veulent pas voir un ancien chef d'État qui estime-t-il les a représentés dignement humiliés par des magistrats dont la jouissance est leur problème, j'allais dire parasexuel privé.
Alors là, Chirac au problème parasexuel des juges.
Je plaide partiellement coupable. Un matin, j'aime pas me lever tôt le matin. Je suis pas sûr que j'avais eu le temps de boire mon café pour venir.
Parce que la vidéo, elle tourne beaucoup sur Internet.
J'ai été largement excessif. C'est pas parce qu'il a rendu des services. Avant, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose d'anachronique dans ce procès concernant des faits qui remontent à l'époque où le financement de la vie politique ne faisait pas l'objet de loi. Espèce d'artisanat prévalait.
Mais quand même. Vous auriez pu être, ça pourrait être une justice paramilitaire, paramédicale,
parasexuelle.
Vous aviez la chanson de Brassens en tête. Ouais. Pour vous, la justice, c'est le garogorie,
si
c'est
vous
ça.
Voulez. Bon, je vous dis, j'ai.
Allez, on est le soir maintenant. Vous êtes réveillé.
J'étais plus qu'excessif. Ceci dit, on observe chez les jeunes gens, les jeunes filles d'ailleurs, qui sortent de l'école de la magistrature de Bordeaux, d'abord un sentiment de frustration par rapport à ceux qui ont fait l'ENA, leur concours aussi difficile. Ils sont sociaux, ils seront.
Oh la vache, vous enfoncez.
Attendez, non, pas du tout.
Ils
vont être socialement moins valorisés, gagner moins d'argent.
D'accord, mais donc la frustration sexuelle ne concernerait que les femmes.
Quand ils peuvent se faire un carton sur un politique connu ou un milliardaire, je pense que ça peut leur procurer une espèce de jouissance. C'est de l'ordre de l'envie. Vous savez, le peuple français qui a beaucoup de qualités, il est envieux. Et oui, il y a ça. Il y a de ce que les philosophes appelaient le ressentiment.
Le ressentiment.
Ça joue, je crois, beaucoup chez les magistrats.
magistrat. Je me suis occupé longtemps de l'affaire Viguier, où un de mes amis a été innocenté au terme de deux procès d'assises et 10 ans de harcèlement judiciaire avec des gens dont j'ai le droit de penser qu'ils étaient des frustrés. Peut-être pas sexuel.
Parasexuel avoué à moitié. Pardonnez. Comment va Jacques Chirac? Je vous pose la question parce que je voulais vous demander aussi, est-ce que pendant un certain temps, vous n'avez pas défendu d'une certaine façon le bilan de santé de Jacques Chirac, peut-être un peu trop positivement par rapport à la réalité? Il y a 2 ans. Vous disiez partout, il va très bien. Et c'était pas tout à fait ça.
Je m'étais aperçu qu'il allait pas bien pendant la durée de son quinquennat, je l'aurais sûrement caché, bien entendu.
Il a fait plus qu'un quinquennat, Denis.
Son quinquennat, le deuxième.
Il a fait qu'un quinquennat.
Il a fait 12 ans. Je crois pas que ce soit un secret que Chirac est pas en bonne santé. Il atteint d'une maladie dont l'intitulé paraît dans les médias, ça a rien de.
Vous avez fait front solidairement.
Mais comme j'ai fait partie des commentateurs qui peuvent être cruels sur les hommes politiques, mais qui estiment que leur vie privée leur appartient, je trouve que soit un homme qui n'est plus au pouvoir, ça regarde personne. J'ai dit la même chose quand on a voulu savoir la vérité sur Mazarine Pinjot. Mitterrand avait cet enfant, il n'avait pas envie que ça sache, il avait raison, et je l'aurais su, je ne l'aurais jamais dit.
En même temps, le degré d'attachement des Français, que vous saluez assez régulièrement en parlant de la popularité extraordinaire de Jacques Chirac, doit vous permettre...
Surtout depuis qu'il n'est plus au pouvoir.
Oui, mais ça doit quand même vous permettre de penser qu'il est à peu près normal que les Français aient envie de savoir s'il va bien, l'homme qu'ils aiment aujourd'hui.
Oui, l'homme qu'ils aiment. Aujourd'hui, d'ailleurs, il le dit, vous savez, il ne va pas si mal dans sa tête. Pas si souvent, il m'a dit, à propos de cette polarité, oui, faut pas... Bon, quand on fait plus rien, quand on n'est plus rien, ce n'est pas très difficile d'être populaire, sous-entendu. C'était plus difficile quand...
Il vous a dit ça quand?
Oui, je sais pas, il y a peut-être 2-3 mois.
Juste, alors...
C'est un ami, je le vois de temps en temps.
Chirac, le Corrézien, Tilinac, le Corrézien. Moi, je me souviens de votre premier bouquin, hein, Spleen en Corrèze, vous étiez journaliste correspondant là-bas. Et dans beaucoup
à la Dépêche du Midi.
Dans beaucoup de rédactions locales, votre bouquin reste comme une bible indépassable. mais alors, pourquoi le Corrézien, Tilinac, vote pas pour le Corrézien Hollande? Vous votez Sarkozy. La Corrèze,
jamais prétendu à autre chose qu'à essayer d'être un bon ou un pas mauvais écrivain français ou francophone.
Oui.
Je m'ai appartenu à un parti, un syndicat, une secte, une maçonnerie. Je me suis engagé, j'ai pris un engagement. Ma famille est gaulliste, mon père était dans l'AS. J'ai voté pour De Gaulle en 69, mon premier vote. Pompidou, Giscard d'Estaing, Chirac, Sarkozy.
Giscard d'Estaing,
Giscard.
Je suis un conservateur, je suis un gaulliste de l'espèce plutôt conservateur. Conservatrice libérale, qui pourrait, je sais pas, qu'est-ce qui boit, ouais, Olivier Guichard, Marie-France Garraud, ouais, des gens avec lesquels j'étais
Roger
souvent
Frey,
d'accord. Je l'ai pas connu. Hein.
Vous êtes Ratsoc, quoi.
Alors oui,
il y a
un peu ça. Oui, non, il y a un peu de ça. Il y a probablement une pondération quand même qui doit venir de mes ancêtres paysans, qui fait que j'aime pas les ultras. Je m'en méfie d'autant plus que l'écrivain est tenté d'être l'ultra de ses pulsions, de ses fantasmes, voire de ses idéaux. Et moi, ce qui m'a fait peur depuis que je suis en âge de réfléchir un peu et d'écrire, c'est de voir que des écrivains aussi formidables que Aragon et Éluard d'un côté, Rebatté, Brasillac ou Drieux à Rochelle, je veux dire, ont investi leur soif d'absolu dans le politique, qui est le domaine de la contingence, et sont devenus pire que des cons.
En sortant de la route.
Des larbins de régime totalitaire. Et ça m'a fait peur, et donc je m'honore de n'avoir jamais...
Jamais quoi ?
Fréquenter les ultras. J'aime pas que ce soit
les ultras droite, des politiques.
Oui, mais jamais les ultras.
Donc Hollande, c'est d'abord le socialiste avant d'être le Corrézien.
Je dis souvent que si j'étais de gauche, je suis pas de gauche. J'aime pas l'histoire de la gauche française. Je serais portugais, espagnol ou anglais. De temps en temps, je voterais à gauche, ça me poserait aucun problème.
Elle a des tares
originelles qui reviennent de la façon dont s'est déroulée la Révolution française, la Convention. J'aime pas Robespierre, j'aime pas Saint-Just, j'aime pas Carnot qui a massacré les Vendéens, j'aime pas Marat, donc j'aime pas la gauche française. Mais si j'étais de gauche, d'ailleurs, je serais communiste, parce qu'ils sont plus francs du collier. Les socialistes,
les gaullistes,
quand même...
et les communistes, ça reste une belle histoire.
On est revenu à la libération.
Moi, je vous vois plus, quitte à voter à gauche, je vous vois plus voter Mélenchon.
Si j'étais de gauche, oui, j'ai fait un débat avec lui il y a pas si longtemps. Ça s'est bien passé. Il a une bonne gueule française à la Gabin. Il a des tirades un peu à la Hollande.
Hollande, il a pas une gueule à la française.
Il y a une France un peu gouailleuse et je dirais poujadisante qui trouve son compte. Et
bon, bah, tout le monde est rhabillé.
Il est réac, hein, donc c'est clair.
Le réac, oui, je le dis dans mon livre, oui. Au sens étymologique du terme, oui. En réaction contre les tendances lourdes de mon époque.
Allez,
oui,
camarade Tilinac, merci beaucoup pour ce quart d'heure que nous venons vivre ensemble.
C'est moi qui vous remercie.
Et vous restez avec nous, surtout, parce qu'on va parler un tout petit peu météo, parler politique française et Afrique, et ça, je sais aussi que ça vous intéresse. À tout de suite.
Europe 1. Des clics et des claques.
Bonsoir Emery Deligier.
Bonsoir Laurent Guimier.
Comme tous les soirs, on t'accueille. Tu es directeur d'agence Vangsen pour la météo du web et on commence par un buzz matinal parce qu'il s'est passé quelque chose sur une radio concurrente et néanmoins amie, comme on dit dans les émissions
ça
sérieuses.
Ça s'est passé sur France Info à 8h10 ce matin. Nicolas Sarkozy était interviewé et il a prononcé la phrase suivante. Deux de nos soldats étaient, musulmans, en tout cas d'apparence, puisque l'un était catholique, mais d'apparence, comme l'on dit. Et ce petit membre de phrase d'apparence a créé un buzz assez important sur le net, puisque entre 8h10, donc le moment où il a pris la parole sur France Info, alors qu'on accueille nos amis de la chanson du dimanche qui rentrent dans le studio, alors qu'entre 8h10,
faire le boulot.
Je t'en prie, entre 8h10 et midi, il y a eu plus de 2000 tweets sur musulmans d'apparence, et entre midi et 20h, 900. Donc ça s'est un peu calmé dans l'après-midi.
Qui était plutôt dans l'ordre de l'offuscation.
Ah mais total, c'est-à-dire qu'il y a une polarité totalement négative à plus de 90%. Mais ce qui est intéressant quand même dans cette polarité négative, c'est qu'au fur et à mesure que l'après-midi avance, c'est devenu quelque chose de très drôle et très comique, parce que les gens commençaient à tordre la chose. Bref, s'il y avait une information à retenir de cette affaire-là, c'est quand même la radio qui a fait l'actualité.
Oh, c'est beau. Vive la radio, c'est ça, comme on dit dans les publicités. Allez, on poursuit avec le point sur le meeting des candidats, comme tu en as pris l'habitude depuis quelques semaines.
Absolument. Je vous avais dit que lors du meeting de François Hollande au Bourget, il y avait eu 15 000 tweets pendant le moment où il parlait. Il y en avait eu 25 000 pour Sarkozy à Villepinte. Il y en avait eu 13 000 pour Mélenchon à la Bastille.
Et hier, c'était Bayrou.
Qui faisait son zénith. Et ben, pendant le moment de son intervention, il y a eu 7000 tweets. Alors évidemment, on est très très loin du troisième homme de la bataille sur les réseaux sociaux, mais quand même, il y a quelque chose qui se passe autour de Bayrou.
L'orange aussi, tu n'étais pas
positif. Oui, c'est votre modem, régulièrement.
Alors que tu as des verts à côté de toi.
Oui, nous sommes très écologiques.
Radicaux.
Mais très radicaux. Et Tilinac est en rose, mais ça c'est une erreur.
C'est une erreur de casting.
C'est du fuchsia tendance Mélenchon.
Allez, termine.
Juste pour terminer sur le Zénith, il y a quand même une petite phrase que moi j'ai retenue et que je vais essayer de vérifier pendant les jours à venir, c'est qu'il y a quelqu'un de chez lui qui a dit que normalement il y allait avoir un effet zénith.
On verra l'effet zénith et puis on termine avec, je le disais tout à l'heure, l'Afrique.
Oui, et c'était un grand beau sur la démocratie au Sénégal. Abdoulaye Wad a reconnu très vite son échec face à Macky Sall. Alors du coup, je me suis renseigné un peu sur qui était Macky Sall via les réseaux sociaux. Alors il a un compte Twitter, il y a 2000 abonnés. Il a un compte Facebook, il y a 23 000 fans. Et surtout, il y a eu plus de 20 000 tweets qui ont célébré la victoire de Macky Sall.
Dans le monde entier. Hein.
Dans le monde entier, absolument. Donc moi, je dis qu'aujourd'hui, Abdoulaye Wad a reconnu sa défaite. Et donc, il y a un grand beau temps sur la démocratie en Afrique.
Denis Tilinac.
C'est bien Wad, c'est formidable qu'il ait fait ça parce qu'il renoue avec ce qu'a fait Abdou Diouf lui-même quand
l'année dernière.
Non, quand Wad est devenu président et que Diouf avait fait, ça avait été exemplaire. Ben j'avais peur et je suis content d'avoir eu tort d'avoir peur.
Jusqu'à hier, vous aviez peur.
Bravo ouais. Wad, chapeau. Jusqu'à cet après-midi, quand je suis venu en train depuis la Corrèze pour venir vous voir, j'ai pas pu suivre ça de près comme je n'ai pas de portable. Et donc, vous m'apprenez cette très, très bonne nouvelle, très importante pour l'Afrique francophone.
Vous êtes complètement coupé du monde.
Pas le moins du monde. Non, probablement moins que vous.
Ah bah peut-être, sans doute, grâce à votre intériorité.
C'est un univers quand même virtuel, l'univers du système médiatique. J'ai remarqué quand je rentre chez moi, qu'il y a des gens normaux et que j'ai passé ma semaine à Paris avec les journalistes, je me rends compte que...
Non, mais rassurez-vous, Denis, on est normaux.
C'est un univers plus qu'artificiel, plein d'artifices.
Eh ben voilà.
Mais vous y échappez peut-être à titre personnel.
Merci Denis Tilinac. Vous restez avec nous parce qu'on va chanter dans quelques secondes. Bonsoir les amis, Clément, Alec.
Bonsoir.
Alors vous avez réussi à nous concocter une chanson pour nous faire marrer sur la semaine qu'on vient de vivre la semaine dernière, hein, c'est ça?
On a essayé.
Bon, eh ben on va voir ça dans une seconde. Allez, à tout de suite sur Europe 1.
Des clics et des claques.
20h, 21h sur Europe 1.
Laurent Guimier.
Et à 20h53, tous les lundis, dans des clics et des claques, c'est l'événement. Bonsoir, la chanson du dimanche. Alec
bonsoir.
Et Clément.
Bonsoir. Pardon,
c'est l'événement. Ça y est, mais vous êtes. Mais oui, c'est l'événement. Il y a la vidéo. Ouais, il regarde la caméra. On est en direct sur Europe 1.fr.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Dites bonsoir correctement.
On est déjà repris.
Allez. Les amis, c'est à vous.
C'est à nous.
Les souris,
les chansons. Même pas.
Qui chante mieux, qui parle.
De quoi il s'agit ou.
Je sais pas. J'ai une vague idée parce que
cette semaine.
La chanson s'appelle Les souris et les chats. Quelque chose me dit qu'on va parler de course-poursuite. D'enquête, de recherche.
Ah, des souricières, mais dans un autre sens.
Un autre en fait, c'est,
allez, c'est à vous.
Une autre histoire, en fait.
Voilà.
2, 1, 2, 3, 4.
Il était une fois des souris qui avaient élu à leur tête une bande de chats tout gris qui avaient l'air plutôt honnête. La première loi des chats tout gris fut d'élargir les souricières pour pouvoir choper les souris sans se salir les pattes arrière. Et les souris ne comprenaient pas pourquoi la vie était devenue un enfer. Non, les souris ne comprenaient pas pourquoi la vie était devenue un combat. Les souris toutes rabougries voulurent chasser les chats tout gris. Alors elles votèrent massivement pour une bande de chats tout blancs. La première loi des chats tout blancs qui avait promis du changement fut d'élargir les souricières pour soulager leurs pattes d'avant. Et les souris ne comprenaient pas pourquoi la vie était devenue un enfer. Non, les souris ne comprenaient pas pourquoi la vie était devenue un combat. Élurent pour changer des chats moitié gris, moitié blanc. Elles appellent ça cohabiter quand une souris sortit du rang. Pourquoi, dit-elle, élire des chats? On devrait élire des souris. Les autres lui dirent scélérat, sale communiste, va-t'en d'ici. Et les souris ne comprenaient pas pourquoi la vie était devenue un enfer. Non, les souris ne comprenaient pas qu'elles se feraient bouffer tant qu'elles voteraient pour des chats.
Et à lundi prochain.
Oh merci. Merci les gars. Alors, décryptage de Guy Berenbaum.
Ah non, moi je ne me permettrai pas de décrypter.
Ah bah si, mais non, mais.
Ils vont décrypter tout seul, mais on ne dit pas assez que ce sont. Et d'ailleurs, Denis avait l'air d'apprécier ça, ce sont des vrais paroliers. Et ce n'est pas très courant par les temps qui courent.
C'est vrai.
Bon, t'as vu ce blanc que j'ai fait là?
Il faut dire que c'est inspiré d'une histoire vraie. Hein. On constate que l'histoire est vraie. Voilà, on peut voir la vidéo de Mouseland. C'est un premier ministre canadien en 1944, l'inventeur de la sécurité sociale au Canada, quoi, qui avait tenu ce discours devant une assemblée. On n'a pas repris, forcément, on a revisité un petit peu son discours, mais c'est quand même une histoire vraie. Voilà.
Bah dis donc.
Ah, ça calme un petit peu, j'ai l'impression.
Non, mais alors là, on s'était dit, on va se marrer.
Ouais,
personnellement, Denis, j'ai les larmes aux yeux. Moi.
Y a un petit peu de...
Denis.
Non, bah, il y a.
Je crois que Denis pleure.
Une réaction, monsieur Molina, cache chaud.
C'est une fable, ça reste une fable qu'on peut conter à des enfants dans des cours d'école.
C'est une fable. C'est tout, oui, quel que pouvoir qu'il soit, élargit toujours la souricière. Et quand, mais le problème, c'est que quand de temps en temps, les peuples après, élisent une souris, et c'est encore pire.
C'est vrai, mais on peut élire des chiens aussi.
Voilà, on peut essayer. Voilà.
Chasser les chats.
Et est-ce que j'ai une question pour vous. Scélérat, c'était un jeu de mots, j'ai compris.
Oh, où est le fromage dans cette affaire-là? Parce que quand même, les souris ont envie qu'on leur augmente le pouvoir d'achat du fromage.
Alors, là,
le fromage
l'affaire.
Est un petit peu partout dans la campagne. Hein. Ça sent un petit peu le fromage, cette campagne.
Allez, bravo.
Merci.
Formidable, ça y est. Merci beaucoup, les amis de la chanson du dimanche. Je rappelle que nous serons tous au Bataclan le 3 mai. Enfin, moi, j'y serai, vous y serez, hein, les amis.
Si on est invité gratuitement, évidemment.
Il y aura à boire.
Invité gratuitement.
À boire, à manger, et tu seras invité. Invité.
Voilà, je vais venir avec mes enfants parce que les mômes, ils
les prix vont bientôt baisser pour tous ceux qui iront voter. Voilà, c'est une.
C'est-à-dire,
on encourage les gens à voter, si.
Avec la carte d'électeur.
Non, avec un tampon. Nous, on est comme ça.
Un tampon sur la main. Voilà,
on contrôle
rien. Ah, c'est
beau,
ça. Tout, mais... Ah, bah bravo. Allez,
on fait confiance aux gens.
On finit avec quelques vannes, les amis. David, quelle est ta vanne?
Vous savez que les socialistes ont ouvert Radio Hollande aujourd'hui. C'est sur Internet.
Tu en parlais juste avant 20h.
De François Hollande, exactement. Et je te remercie de le rappeler. Christophe Général qui tweet: je me demande comment Radio France va réagir face à la concurrence de Radio Hollande. Elle est à triple sens.
Oh là là. On en parlera avec notre invité de m'asseoir qui est monsieur Stéphane Guillon.
Bah, je suis sûr qu'il aura un avis.
Guy.
Ayam le poids, alors c'est une vanne que je dédie spécialement à Denis Tilinac qui nous est venu par un train qui n'est pas un TGV depuis la Corrèze. Il y a 40 ans, la SNCF présentait le TGV, grande invention qui permettait aux voyageurs d'arriver plus vite en retard.
Oh, ah,
elle est fine.
Allez, Lise, tu as le dernier mot comme souvent.
Une vanne. Démago. San Antonio 03, Amazon prépare une version de sa liseuse qui se brancherait électriquement. Le Kindle surprise.
Elle est très très drôle. Là. Kindle surprise. Kindle. J'explique pour mon père qui a peut-être pas compris.
J'ai rien compris.
Et pour voilà, j'explique. La liseuse s'appelle un Kindle.
Pourquoi?
Pour passer le nom. Ça s'appelle
20h10.
Kindle.
21h10.
Surprise. Et le Kinder Surprise, Denis, tu vois le petit gâteau que...
Ah oui, ça oui.
Ah, allez, c'est bon. Merci à tous. On a tous
banane.
Compris, on est tous contents. Merci à tous. À demain, les amis des CDC, c'est terminé. Et tout de suite, nous filons à l'Hôtel Coste.